contrôle bon tala. Où t'es ni à ça, que ça te caille fini con ça. Boy, papa m'tête à oublier histoire au tala. Elle te rend ding 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 quand elle a son poum poum.
Quoi?
Chat, et ton problème c'est simplement qu'elle s'en moque, elle te rend ding. Boy, et quand elle whine dans son chat, et y'a pas que chez toi qu'elle a causé un choc choma.
La nuit se couche encore ici-bas. Les soirées n'ont plus le même éclat. Et si la lune brille, baby, elle ne brille plus pour moi. Les étoiles se font claires et limpides. Mais dans ma tête, je dois faire le vide. Le temps s'est arrêté ici depuis que tu n'es plus là.
RFI, les 11h en temps universel, midi à Paris. RFI Midi vous est présenté par Anne Cantner. Bonjour Anne.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. RFI Midi, le tour de l'actualité dans le monde. Nous sommes ensemble pour 2h30 avec nos correspondants et nos envoyés spéciaux. Toujours à la une, la guerre au Moyen-Orient et la tension qui monte encore concernant le détroit d'Ormuz. Ce point de passage du pétrole, très important pour le commerce mondial. Donald Trump a donné jusqu'à ce soir à l'Iran pour mettre fin au blocage. Et ce n'est pas du tout la direction que semble prendre Téhéran. Le régime menace de nouveau de poser des mines navales dans le Golfe si jamais les États-Unis et Israël attaquent ses côtes ou ses îles. Des attaques, il y en a eu ces dernières heures contre des sites nucléaires de la part de l'Iran et d'Israël. Et on s'interrogera dans une demi-heure sur la stratégie des autorités israéliennes. Pas forcément la bonne, on le verra dans la fabrique du monde. On essaiera aussi de comprendre avec notre invité comment des dégâts aussi importants ont pu être causés à Dimona, site pourtant ultra sécurisé de recherche nucléaire israélien. Rendez-vous dans un peu plus d'une heure et juste avant, vous pourrez entendre la gêne des Israéliens de Dimona rencontrée par notre correspondante.
Moi, je crois que c'est plus un bouclier que du... Parce qu'ils savent qu'on a, si on a le nucléaire, enfin, ils savent pas, mais tout le monde a peur du nucléaire.
Reportage à écouter dans une heure sur RFI.
RFI Midi.
La disparition d'une figure du Parti Socialiste et de la vie politique en France, l'ancien Premier ministre Lionel Jospin est mort. Lui qui avait incarné la gauche plurielle, le rassemblement dans les années 90. Et c'est tout un symbole au lendemain d'élections municipales qui ont vu les différents partis de gauche peiner à établir une stratégie lisible. Analyse du scrutin dans une dizaine de minutes et retour sur le parcours de Lionel Jospin. Beaucoup se souviennent de cette phrase.
J'assume pleinement
la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle.
Cette phrase prononcée au soir du premier tour de la présidentielle de 2002, dont il avait été éliminé, qui marquait la qualification de l'extrême droite pour la toute première fois en France au second tour. Mais Lionel Jospin était aussi l'homme des semaines de travail de 35 heures, de la couverture maladie universelle et du PACS, notamment l'union civile pour les couples homosexuels. Retour sur son parcours après le journal. Et puis en France toujours, un nom est partout ce matin. Zinedine Zidane, qui pourrait prendre la tête de l'équipe de France après le départ de Didier Deschamps. Le flou l'est de moins en moins, mais rien n'est encore officiel. On en reparle dans quelques minutes. Vous avez le programme. Bienvenue. Et tout de suite, votre journal Lisa Villy avec à la une donc le Moyen-Orient, l'ultimatum de Donald Trump qui arrive à échéance ce soir.
Si l'Iran ne rouvre pas le détroit d'Ormuz, il menace de détruire les centrales électriques iraniennes. Et Téhéran n'est pas prêt de plier, mais répond si le président américain met sa menace à exécution, elle attaquera les centrales électriques israéliennes et celles qui alimentent les bases américaines dans le Golfe, selon un communiqué des gardiens de la Révolution qui ne mentionne plus les usines de dessalement d'eau. L'Agence internationale de l'énergie a de son côté prévenu, la guerre au Moyen-Orient pourrait provoquer la crise énergétique mondiale la plus grave de ces dernières décennies, alors qu'Israël a frappé de nouveau Téhéran ce matin, promettant plusieurs semaines de combats.
Et la guerre israélo-américaine contre l'Iran est toujours plus impopulaire aux États-Unis.
Alors que l'administration Trump a demandé au Congrès d'approuver une hausse du budget de 200 milliards de dollars pour financer l'effort de guerre, que les consommateurs américains commencent à sentir la hausse des prix du pétrole, Donald Trump lui multiplie les déclarations contradictoires sur la suite de la guerre et la possibilité d'une intervention au sol. Lui qui avait pourtant fait campagne sur la fin de l'interventionnisme américain et sur la fin de l'inflation. Interviewé sur la chaîne CNBC ce dimanche, le ministre américain de l'économie, Scott Bessent, n'y voit lui aucune contradiction.
Ça n'est pas incompatible. Parfois, il faut escalader pour pouvoir désescalader. Comme toujours avec le président Trump, toutes les options sont sur la table. Nous avons tout l'argent nécessaire pour financer cette guerre. Ce que l'on demande au Congrès est complémentaire. Le président Trump veut simplement s'assurer que nos militaires seront bien approvisionnés à l'avenir. Les Américains ont compris que si les prix montent temporairement, je ne veux pas donner de chiffres, mais disons que pendant les 50 prochains jours, ou les 30, ou les 100 prochains jours, les prix montent, cela vaut le coup pour empêcher le régime iranien de se doter de l'arme nucléaire pendant les 50 prochaines années.
Scott Bessent aux États-Unis. À Cuba, l'électricité est revenue après une nouvelle panne nationale.
La deuxième, en moins d'une semaine, les autorités ont toutefois prévenu que l'offre d'électricité reste inférieure à la demande. Sur l'île qui compte près de 10 millions d'habitants, la compagnie d'électricité nationale invoque l'arrêt d'une unité des 8 centrales thermiques du pays qui a provoqué un effet domino. Les pannes sont fréquentes sur les infrastructures électriques qui vieillissent et le blocus énergétique imposé par Washington n'arrange rien. Face aux pénuries d'électricité, donc, mais aussi de nourriture, de médicaments, la colère des Cubains monte. Justine Fontaine, vous avez pu parler par téléphone avec des habitants de La Havane.
Quelques heures après une nouvelle coupure de courant générale, la liaison téléphonique avec Cuba est difficile. Et quand on arrive à les joindre, certains habitants préfèrent ne pas nous parler. Personne ne veut donner son nom. Cette dame qui vit à La Havane et dont on ne diffusera pas plus la voix nous explique qu'elle ne sort que tout près de chez elle, faute de transport et de carburant, et qu'elle n'achète que le minimum quand elle trouve à manger parce qu'elle n'a pas de quoi conserver les aliments. L'électricité, ça va, ça vient, dit-elle, puis la ligne se coupe. Un autre habitant qui a pris le risque de nous parler nous explique que sa femme est parfois obligée de cuisiner au feu de bois. Il travaille pour une petite entreprise de panneaux solaires, il a deux enfants et gagne l'équivalent de 10 dollars américains par mois. C'est le seul revenu de sa famille. Il part travailler tous les jours sans avoir pu petit déjeuner, faute d'avoir assez à manger. Les gens en ont marre, c'est pour ça qu'ils protestent dans la rue, poursuit-il. Il y a quelques mois, son propre cousin a été frappé, arrêté et condamné à 15 ans de prison, juste pour avoir exigé ses droits dans la rue, conclut-il.
Et hier, le numéro 2 de la diplomatie cubaine a déclaré sur la chaîne états-unienne NBC que Cuba ne souhaite pas de conflit avec les États-Unis, mais se prépare quand même à une éventuelle invasion de l'armée américaine.
En France, c'était les dernières élections avant la présidentielle de l'année prochaine.
Le second tour des municipales. Hier, sans vainqueur clair, chaque camp se dit satisfait de ses gains. En bref, les socialistes ont conservé les trois plus grandes villes de France, Paris, Marseille et Lyon. Lyon, où le scrutin a été particulièrement serré. Le maire sortant, écologiste Grégory Doucet, conserve son siège avec seulement 3000 voix d'avance sur Jean-Michel Aulas, le candidat de la droite et du centre et ancien président de l'Olympique Lyonnais, le club de football de la ville, qui lui ne l'entend pas de cette oreille. Bonjour Victorien Villaume, vous êtes à Lyon pour RFI, devant l'hôtel de ville. Hier soir, Jean-Michel Aulas n'a pas reconnu la victoire de Grégory Doucet.
Et oui, alors que vers 23h, le maire sortant écologiste revendiquait la victoire, 15 minutes plus tard, Jean-Michel Aulas débarque dans son QG et devant ses militants, il l'affirme, il n'est pas encore l'heure de siffler la fin du match.
Les résultats semblent à peu près connus. Ils sont beaucoup plus serrés que ceux qui avaient été annoncés par les médias, mais aussi par le maire sortant. Je prends donc acte de l'avance infime de Monsieur Doucet. Et tiens donc d'ores et déjà officiellement à exprimer mes réserves quant au résultat final du fait de ces très nombreuses irrégularités.
Alors plus tard dans la soirée, l'ancien président de l'OL précisait simplement que le dossier de recours n'est pas encore prêt mais qu'il saisira la justice dès que le dossier sera bien ficelé. Et ce matin, son équipe de campagne nous en dit un peu plus. Selon le camp Aulas, hier lors de la journée de vote, la couleur de certains bulletins, Grégory Doucet, n'était pas conforme et ces bulletins devraient donc être considérés comme nuls. Par ailleurs, le recours qui va répertorier les prétendues irrégularités sera déposé, nous dit-on, devant le tribunal administratif de Lyon avant ce vendredi 18h. Du côté de Grégory Doucet, on s'affiche serein et on dénonce surtout une grande mauvaise foi. Pour rappel, quand il présidait l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas contestait très souvent les décisions arbitrales.
Merci Victorien Villaume.
En France, toujours, après plusieurs reports, début du procès aujourd'hui, des décharges de Nestlé Waters devant le tribunal de Nancy.
La filiale du géant de l'agroalimentaire suisse est poursuivie pour avoir maintenu 4 décharges sauvages dans l'est de la France, dans les Vosges, autour de ses usines de mise en bouteille. Depuis des dizaines d'années, des quantités très inquiétantes de microplastiques se décomposent dans la forêt, ce qui inquiète les riverains, les défenseurs de l'environnement, qui espèrent voir Nestlé Waters tenu responsable par la justice. Juliette Pietraszewski.
Au cœur de cette affaire, 360 000 mètres cubes de déchets sur 4 décharges sauvages, l'équivalent de 140 piscines olympiques, où des quantités extrêmement inquiétantes de microplastiques ont été enregistrées. Bernard Schmitt est porte-parole du collectif O88 et président de Vosges Nature Environnement. Il habite à Vittel, près d'une des décharges.
And over again. Show me your mercy.
Désagréable à l'oreille, mais enfin c'est bien ce qu'on entend en ce moment sur la modulation de fréquence.
À Évreux, 102.4, dans le sud de l'Eure, 95.9.
Et là, on va vous balancer de la musique. C'est parti, les gars.
Follow style based on loop triple one. Spotify. Minding my grinding, chilling in the vibe. Longing for time, something for the high.
Des costards et mets des vêtures. Je perturbe et perdure. J'ai le truc. Le même trajet, je prends toujours le même bus. Exclu, colle aucun texture. Crème séquée, rayure sur la portière de ta Lexus. La jalousie m'a fait des nervures. Et cette pute dans le jacuzzi m'a fait des gerçures.
Je sais plus son nom, Mélodie ou Gertrude. Je gère plus, mon âme est apoplexue.
Bien trop de violence à croire que les gens ne baissent plus. Ils ont le même but de Pécus, montrer être vu. Bestial, donne-moi la scène que je monte les Celsius. Tu touches le ciel qu'avec un Airbus. Mon âme est malade, mon karma et mes inquiétudes. Rien à foutre du rap game, je suis un génie.
On prend les bonnes méthodes, on se remet aux anciens. Mais tu m'étonnes que t'es bonne, y'a que des mecs en chien. Le néant et la honte, ce qui n'arrange rien. Le présent c'est la souffrance, ça va, je me soutiens. On reprend les bonnes méthodes, on se remet aux anciens. Mais tu m'étonnes, tu t'es bonne, y'a que les mecs en chien. Le néant et la honte, ce qui n'arrange rien. Le présent c'est la souffrance, ça va, je me soutiens.
Y'a trop de vide dans l'espace, je m'inquiète pour la survie de l'espèce. On survole en escouade, on transmet les missiles comme Hermès. Y'a encore de l'espoir, tu permets que je m'immisce dans tes fesses. Avec une grosse ligne de basse et des missiles de caisse claire. La connerie de l'herpès, génital et buccal. Incurable et tenace, toi tu râles les menaces. Oh du calme et te casse, si c'est pas ta meca. On s'en bat les yoku, boy, on est pas des restas. J'arrive sur bucéphale, armée de mon encéphale. Hey mes hydrocéphales, oh la guétale. Le peura c'est pas la putain de foire d'empoigne. Y'a même pas de débat, ferme-la, l'état c'est moi. Trop de kamikaze, outils, chin à la tienne. Trop de galéjades, du pipine à la belle. Trier camouflage, comme à l'ancienne. J'suis en orbite sur un beat alien des Simon.
On reprend les bonnes méthodes, on se remet aux anciens. Mais tu m'étonnes que t'es bonne, y'a que des mecs anciens. Le néant et la honte, ce qui n'arrange rien. Le présent c'est la souffrance, ça va, je me soutiens. On reprend les bonnes méthodes, on se remet aux anciens. Mais tu m'étonnes, tu t'es bonne, y'a que des mecs en chien. Le néant et la honte, ce qui n'arrange rien. Le présent c'est la souffrance, ça va, je me contiens.
des principes actifs.
À Louviers,
sur le DAB+.
Sur le DAB+.